Comme tous les jours, nous commencerons la deuxième heure de Grand Bien vous fasse avec le regard d'une personnalité sur la période que nous vivons. Aujourd'hui, ce sera le plongeur océanographe François Sarano.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Daniel Fievé.
Bonjour François Sarano.
Bonjour Daniel Fievé.
Vous êtes plongeur océanographe. Vous avez récemment publié Réconcilier les hommes avec la vie sauvage aux éditions Actes Sud. Vous qui aimez parcourir le monde et les océans pour de grandes expéditions océanographiques, comment allez-vous après un peu plus de 5 semaines de confinement?
Eh ben, je vais bien. Mes amis vont bien. Nous nous téléphonons souvent. Nous échangeons beaucoup. Et je trouve que cette période est une période importante de réflexion, un peu de retraite. Et c'est une période qui me paraît aussi un bienfait. Ça nous permet à nous de réfléchir, à moi de réfléchir sur ce qui est important,
Alors
essentiel,
vous...
les vraies valeurs. Voilà.
François Sarano, vous avez été coéquipier de Cousteau sur la Calypso, célèbre navire océanographique. Lors de ces grandes expéditions en mer, vous êtes-vous senti parfois confiné sur ce bateau, avec parfois de longues traversées, notamment de l'océan Pacifique? C'est long, le Pacifique.
Ah oui, c'est très long la traversée du Pacifique, confiné bien sûr, à bord de Calypso, on était confiné. Juste pour dire, nous partagions à deux une cabine qui faisait à peine 6 mètres carrés. Si on retire le bureau et puis le placard, nous ne pouvions même pas nous tenir debout à deux quand l'un était assis. Voilà. Et à bord, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait s'échapper. On restait des mois sur ce bateau ensemble. C'est formidable parce que on apprend sur un bateau, l'art de vivre ensemble, ensemble, de faire des compromis et de partager avec l'autre. Donc c'est un endroit effectivement où, là encore, on essaye de vivre en commun. Et c'est un petit peu ce qu'on vit à la maison en ce moment, commun, on peut pas sortir, mais on a la chance d'avoir quand même des communications avec l'extérieur, alors qu'à bord de Calypso, nous n'avions pas de téléphone à l'époque, on avait juste un ami qui s'appelait Guy Joas et qui faisait du radio amateur, on avait 3 mots, on était sur l'essentiel.
Ouais. Alors profitons de votre expérience de plongeur et d'océanographe pour nous évader un peu ce matin. Vos carnets de plongée sont pleins de rencontres fabuleuses, parfois impressionnantes. Vous avez notamment nagé épaule contre nageoire avec un grand requin blanc. Racontez-nous, et quel souvenir vous gardez de cette rencontre?
Harmonie et paix. Harmonie et paix. Le grand requin blanc, lorsqu'il arrive sur vous, vous avez une seule inquiétude. Ne pas l'effrayer, qu'il s'approche plus encore. Il est énorme. 5 mètres, 6 mètres peut-être. Il pèse 1,5 tonnes. Et vous l'attendez. Et lorsque tout d'un coup, vous arrivez à quelques centimètres de lui, j'étais presque posé sur sa nageoire pectorale, et je nageais à ses côtés, vous dites, ne le touche pas, ne le frôle pas, pour que ce moment de paix incroyable se prolonge, une minute et demie, 2 minutes, et puis... cette audience accordée, il est reparti dans le bleu, et ça reste inoubliable, bouleversant, parce que c'était partagé avec mon ami caméraman David Reichert, parce que ça a été partagé avec toute l'équipe. C'était un moment de sérénité totale, où on comprend qu'on peut vivre en harmonie, en paix, avec cette vie sauvage qui parfois nous fait peur.
Ben oui, parce que le requin blanc, c'est quand même... il a cette image un peu terrifiante, certainement véhiculée par Hollywood, mais beaucoup d'entre nous face à... Il est énorme, il y a des photos, on vous voit, vous paraissez minuscule à côté de ce requin blanc. Vous n'avez à aucun moment eu peur.
Mais non, encore une fois, quand on regarde les faits, rien que les faits, il n'y a pas d'accident de requin sur plongeur. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, il y a là-dedans ni courage, ni bravoure, ni rien du tout. Il y a juste l'envie d'écouter l'autre. Le respect, la bienveillance, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ça, parce qu'il faut qu'on soit ouvert à l'autre, à celui qui est différent, pour que tout d'un coup, il puisse y avoir ce moment d'accord. Ça dépend que de nous. Hein, l'animal sauvage, il vient juste nous accorder un moment.
Alors ces moments d'accord que vous accorde le monde sauvage, vous les avez aussi vécus avec un clan de cachalots au large de l'île Maurice. Alors c'est un peu différent parce que cette fois-ci, ces cachalots, vous leur rendez depuis quelques années régulièrement visite, vous attendez qu'ils vous acceptent et vous passez de longs moments dans l'eau avec eux. Vous les connaissez individuellement et vous avez appris énormément de choses à leur sujet en les observant.
Oui, et là encore, nous nous immergeons et nous attendons que ce soit eux qui décident. Nous nous immergeons avec mon ami René Euzet, Vitry, c'est toute une équipe formidable, l'équipe de Longitude 181. On fait toujours ça en équipe. Mmh. Et nous recevoir l'offrande des cachalots. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que cette attitude qui permet d'un coup de rencontrer l'autre, c'est d'être à son écoute, de se déplier de ce que l'on sait du monde et d'avoir envie d'entendre l'autre. Et à cela, ce sont les cachalots eux-mêmes qui viennent nous étudier. Ce sont les cachalots qui viennent tenter de nous apprivoiser. Cette inversion des rôles nous remet à notre juste place dans ce monde. Il nous fait comprendre que nous faisons partie de ce monde, que nous partageons tout ce même monde, que nous sommes parcelles d'océan, parcelles de ce monde.
On l'entend, hein, François, ces observations du monde sauvage vous ont conduit à vous interroger sur notre rapport à la nature. Quel regard vous portez actuellement sur cette période très particulière que nous vivons en ce moment? Parce qu'elle fait écho aussi à la façon dont on traite la nature, on organise peut-être parfois un peu trop la nature et le monde sauvage autour de nous.
Je trouve là qu'il y a beaucoup de réflexions. La première, que tout est lié. Hein. On respire tous le même air. Nous, les humains, et tous nos autres colocataires vivants. On est tous sur ce petit vaisseau qu'est la planète Terre. Et on le voit bien aujourd'hui, le monde entier subit cette crise. Enfin, le monde entier, nous, les humains, subissons cette crise globale qui... nous remet un petit peu à notre place, hein. On était très arrogants, nous avions maintenant dominé le monde. Eh ben, le monde nous rappelle que la nature peut nous oublier et nous dominer. C'est pas mal. Mais surtout, encore une fois, que tout est lié sur cette planète et que nous ne pouvons pas regarder. La politique du château fort, la politique de se replier sur soi-même, c'est fini, on le prend là.
François,
on est tous ensemble.
François, est-ce que vous pouvez vous bouger un tout petit peu là où vous êtes, parce que vous êtes enflammé, mais on ne perçoit qu'une syllabe sur deux. C'est un peu compliqué la liaison, et j'aurais vraiment envie d'avoir la dernière réponse à cette question que nous posons à toutes les personnalités du début de deuxième heure. Comment vous envisagez le monde d'après?
En tout cas, je l'envisage par une réflexion commune pour comment faire pour vivre à 10 milliards d'habitants sur cette planète mieux, ensemble, en paix. Il faut que tous ensemble nous engagions cette réflexion. Personne ne sait comment on va faire. Mais on a le devoir de s'engager dans cette réflexion parce que ça ne se fera que ensemble. 10 milliards d'habitants en paix en gardant une place pour la vie sauvage. Parce que nous en avons besoin. Nous permet de vous évader et de revenir assis et nous permet de retrouver de la paix.
Bon, malgré la difficulté de la liaison, on arrive quand même à percevoir tout votre dynamisme et votre conviction. Un grand merci à vous, François Sarano. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous, François.
Merci, Daniel.